Je vous propose de lire le texte et de le commenter. Ce texte, donc, est un texte tiré du premier livre des Chroniques, au chapitre 15, verset 3, jusqu'au chapitre 16, verset 2. En voici la lecture. Après son sacre, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les descendants d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres et les descendants de Lévi. Puis les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse selon la parole du Seigneur. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, cithares, lyres, cymbales retentissantes, pour que leur musique s'élève joyeusement. Ils emmenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Alors la première interprétation, c'est toujours l'interprétation que l'on doit viser, c'est une interprétation assez proche du texte, littérale. Ben, ce qui nous frappe, c'est que David prend très au sérieux la prière, qui ici se manifeste, comme au temps où il vivait à l'époque du peuple des Hébreux, vers l'an 1000, par des rites, des holocaustes, des musiques, etc. C'était leur façon de prier à l'époque. Eh bien, David, par ce respect qu'il a de ses traditions, montre l'importance qu'il accorde à la prière. D'abord, David vit un moment important, son sacre. Eh bien, il devrait être dans la joie, il est dans la joie, et nous-mêmes, nous connaissons des moments importants dans notre vie, mais trop souvent, surtout quand ce sont des moments joyeux, nous avons tendance à oublier le Seigneur. C'est bien ce que notre monde fait. Maintenant qu'il a le confort, etc., qu'il y ait une certaine paix, il tourne le dos au Seigneur. Eh bien, David, lui, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'oublie pas le Seigneur, au contraire, il l'associe à sa joie, à sa vie. C'est un comportement que nous ferions bien d'imiter, associer le Seigneur dans nos peines, mais aussi dans nos joies. Alors, autre chose, c'est la joie et l'application que David consacre à cette préparation de la prière. C'est-à-dire qu'il va transporter l'arche, puis offrir enfin, qu'il a l'arche devant lui, un sacrifice de communion. L'arche, rappelons-le, est l'endroit où se trouvent les 10 commandements, c'est la présence par excellence de Dieu. Eh bien, David, pour arriver à cette présence, n'hésite pas à s'appliquer et vit ce moment dans la joie. Nous-mêmes, nos moments de prière, nous devons les prendre au sérieux et le faire avec joie. La prière est une chose sérieuse, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre du comportement de David. Enfin, David, par sa prière, contamine les autres, il investit les autres. Nous-mêmes, par notre prière, nous nous investissons par les autres. Par l'intercession, nous associons aussi d'autres personnes à notre prière, en priant pour elles. Nous pouvons aussi demander à des personnes de prier pour nous. C'est un moyen, comme David, d'associer nos frères à notre prière, en priant pour eux ou en demandant leur prière. C'est aussi bien sûr la prière communautaire. Ensuite, regardons, David est joyeux. La prière le rend joyeux. Il veut que de la musique soit faite et qu'elle s'élève joyeusement. Nous devons vivre notre foi dans la joie et vraiment la prière, la vraie prière, celle qui nous amène en présence du Seigneur, doit tout naturellement faire naître la joie en nous. C'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose de naturel puisque si nous prions vraiment, nous sommes en face du Seigneur des Seigneurs qui se propose d'être notre ami, notre frère, notre père. Quelle joie de se sentir aimé si parfaitement et si efficacement. Comment ne pas être joyeux et transmettre cette joie puisque David, après le sacrifice de communion, bénit le peuple. C'est donc de cette prière, de cette joie qui naît dans la prière, que notre vie, comme David, doit se faire bénédiction pour les autres, parce que nous prions pour eux, nous les aimons, nous transportons cette joie que nous avons en nous, au milieu parfois de gens bien tristes. C'est tout cela donc que ce texte veut nous enseigner. Ensuite, nous pouvons voir une interprétation plus morale ou tropologique, ce que nous allons voir en allant dans le texte plus en détail. Donc, après son sacre, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Tout comme David, nous avons des projets pour Dieu. C'est comme si nous avions un emplacement que nous avions préparé pour l'arche. Nous avons des projets pour Dieu. C'est comme un sacre. Nous sacrons certaines choses, certaines idées, certains projets pour Dieu. Nous les consacrons à Dieu. Eh bien, David met en présence de ce projet tout Israël. C'est-à-dire que nous devons mobiliser toute notre énergie, toute notre personne. Ce que nous faisons pour Dieu doit passer en premier. C'est quelque chose qui doit avoir la plus haute importance pour nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait accessoirement une fois que tout le reste est fini. Alors, il réunit les descendants d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres, et les descendants de Lévi. Alors ici, le texte nous dit comment faire pour mobiliser nos énergies. C'est d'abord par la prière, puisque les descendants d'Aaron, ce sont les prêtres. Et Aaron veut dire illuminé. Ce sont vraiment ceux qui sont la prière par excellence. C'est, si vous voulez, dans notre vie quotidienne, les temps de prière. Ce que vraiment nous mettons de côté pour Dieu, ces moments que nous lui consacrons. Mais ce n'est pas que cela, mobiliser les énergies pour Dieu. Déjà les temps de prière, mais c'est aussi mobiliser les descendants de Lévi. Lévi, ce sont tous ceux qui sont consacrés justement à l'entretien du temple, à faciliter le travail du grand prêtre. D'ailleurs, Lévi veut dire joint au culte, joint au prêtre. Donc, dans notre vie, nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser tout ce qui va nous amener à Dieu. Alors, les temps de prière, mais dans ces temps de prière, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il y ait du calme, pour qu'il n'y ait pas de distraction, ce que nous allons voir tout à l'heure plus avant dans le texte. Et ici, c'est aussi un moyen d'associer notre vie quotidienne. Les descendants de Lévi, c'est aussi l'engagement que nos temps de prière vont déborder dans notre vie quotidienne. Qu'il y ait cette communion entre notre prière qui va vraiment modeler notre action dans la vie quotidienne et notre vie quotidienne qui va modeler notre prière, parce que nous allons, comme David, vraiment confier au Seigneur tout ce qui nous arrive dans notre vie. Voyez les fils de Lévi associés aux fils d'Aaron, un descendant ici dans le texte plus précisément. Ensuite, les descendants de Lévi, c'est dans notre vie quotidienne comment faire pour associer le Seigneur. Parce que nous avons les temps de prière, mais toute notre vie n'est pas consacrée à ces temps de prière. Quand nous agissons après dans la vie, nous devons agir chrétiennement. Comment faire ? Pas simplement en ayant la volonté et le désir, ce qui est important, mais en n'oubliant pas ces descendants d'Aaron, c'est-à-dire ces petites prières que nous faisons, ces regards que nous tournons vers le Seigneur discrètement, qui essaiment nos journées pour nous recentrer dans le Seigneur. C'est aussi ça, les descendants d'Aaron. C'est par ces petits réflexes de prière que nous pourrons compléter ces grands temps de prière et que vraiment notre vie quotidienne se trouvera transformée par un esprit de prière, par la grâce du Seigneur. Continuons le texte pour voir comment nous pouvons davantage nous préparer à cette communion que David a vécue intensément dans le texte. Puis les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse selon la parole du Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, les Lévites, c'est aussi tout ce qui peut nous aider à bien prier. Eh bien, d'abord, ils vont transporter cette arche. Qu'est-ce qui va permettre cette rencontre ? C'est-à-dire que cette arche vienne face à nous et que nous venions face à cette arche. Eh bien, ce sont, comme le dit le texte, des barres placées sur leurs épaules. Ce qui permet à la parole de Dieu de prendre toute sa puissance, c'est la tradition de l'Église. Et qu'est-ce que la tradition de l'Église ? C'est d'abord respecter sa doctrine. C'est voir la beauté de ce que représente la Trinité, de ce que représente l'incarnation de Jésus, que ces vérités soient vraiment présentes dans nos moments de prière, dans nos méditations de la parole. C'est aussi savoir faire nôtre tout ce que d'autres chrétiens ont vécu avant nous, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, les prières que d'autres ont rédigées avant nous, qui peuvent nous aider pour nous amener plus tard à une plus grande spontanéité dans la prière. C'est aussi la tradition de l'Église, tout ce que l'Église met à notre disposition dans le lectionnaire, c'est-à-dire tout ce que la liturgie nous propose comme lecture, les lectures des messes. C'est aussi la liturgie des heures qui nous met en condition, c'est-à-dire avant de lire la parole, il y a d'abord des psaumes, des hymnes. On n'ouvre pas la parole comme on ouvre n'importe quel livre. C'est aussi d'autres instruments, on mobilise toutes nos énergies pour vraiment que notre attention, notre cœur, notre esprit soient tourner vers Dieu, ça peut être aussi le chapelet, ce qui nous convient. Vous voyez, Tout ça, ce sont comme les grands prêtres qui portent l'arche sur leurs épaules. Et c'est comme ça que notre prière pourra rentrer en mouvement, que nous pourrons nous avancer vers Dieu, grâce à ces temps de préparation, pour enfin entrer dans un cœur à cœur. Et puis, le texte nous dit, le moyen par excellence, c'est comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur, toujours la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui peut porter notre spontanéité, qui va nous permettre de nous ouvrir le cœur à la présence de Dieu et de lui répondre. C'est la parole du Seigneur qui va vraiment nous faire vivre un dialogue avec Dieu. Pas simplement lui parler, mais aussi l'écouter. Et ensuite lui répondre par rapport à ce qu'il nous a dit dans sa parole. C'est aussi un moyen pour nous de voir que toute véritable tradition est celle qui est, disons, qui se conforme à la parole du Seigneur, comme l'avait ordonné Moïse, dit le texte. La véritable tradition, et c'est ça la tradition de l'Église, c'est celle qui se nourrit et s'enracine dans la parole de Dieu. Alors, ensuite, le texte nous dit... David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, cithares, lyres, cymbales retentissants, pour que leur musique s'élève joyeusement. Nous-mêmes, nous devons tout mettre en place pour cette rencontre de cœur à cœur avec Dieu qui va engendrer notre joie. Comment faire ? Eh bien, David place les chantres, cithares, lyres, cymbales retentissantes, il met tout en place. Nous-mêmes, nous devons préparer nos temps de prière. D'abord en nous réservant des temps de silence dans la journée. Et puis des lieux où vraiment nous pourrons être au calme avec le Seigneur. Ce sont des choses importantes qu'il faut faire. Nous devons nous réserver du temps et un lieu précis. Ce n'est pas forcément toujours le même, mais un lieu et du temps qui vont favoriser notre rencontre avec le Seigneur. Ensuite, bien sûr, c'est aussi, comme je l'ai dit, utiliser des moyens, le lectionnaire, le chapelet, la liturgie des heures et surtout la parole de Dieu pour ces temps de prière. Notons aussi que tout ça doit se faire dans la joie. Prions le Seigneur toujours pour que nous ayons de la joie à le rencontrer. Et ces temps de prière doivent être synonymes de joie. Nous devons toujours être joyeux. Toujours quelque chose que nous devons demander au Seigneur, c'est la joie. La joie de vraiment le rencontrer et que cette joie soit vraiment ancrée dans nos cœurs à chaque moment de prière, qui nous donne davantage sa joie pour qu'elle rayonne sur les autres. Ça, c'est une intention de prière importante. Ensuite, ils amenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David avait préparé un lieu pour la tente, pour l'arche. Nous-mêmes, nous devons être disponibles, prêts à accueillir le Seigneur comme David. Regardez son enthousiasme. Et puis, enfin, une fois que nous avons mis tous les atouts de notre côté, que nous fournit l'Église, que nous fournit notre volonté de se consacrer du temps au Seigneur, etc., nous avons enfin l'arche qui est à sa place, c'est-à-dire, enfin nous allons être face à face avec Dieu. Dieu est amené, enfin nous sommes plutôt nous amenés face à Dieu, qui lui était déjà là. Et après, on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de communion. Seulement après tous ces moments de préparation que peuvent constituer la liturgie des heures, notre volonté de prier, se mettre dans des conditions idéales de temps et de lieu, de calme. Seulement après cela, avec la méditation de la parole, nous arriverons à la communion avec Dieu. C'est-à-dire cette communion où vraiment nous allons dialoguer avec lui, lui parler spontanément. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut prendre dans notre Père des prières et les faire nôtres, comme les psaumes dans la liturgie des heures. Ce sont des préparations où déjà nous exprimons nos intentions, mais elles nous sont comme dictées par le texte. Et puis petit à petit, nous allons arriver au moment où dans la parole, nous allons répondre à Dieu, à dialogue, où notre cœur va parler spontanément. Et puis nous allons vraiment, comme David, amener toute notre vie devant le Seigneur. C'est ça cette communion. C'est-à-dire se rendre pleinement compte que Dieu est un ami, que Jésus est là, que Dieu en Jésus s'est rendu homme proche de nous, frère et ami, pour partager nos projets, pour nous aider, nous guider. Ça, c'est la communion. Et après, quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Eh bien, ces moments de communion, il faut en être persuadé, c'est là où se jouent les victoires. Quand nous avons un projet pour Dieu, par rapport à nous-mêmes ou à nos frères, quand nous prions pour eux, avant même de pouvoir leur parler de Dieu, agir pour eux, les aimer en acte, en parole, en action, c'est dans cette communion de prière que tout va se jouer. Soyons convaincus quand nous prions et que nous avons ces moments de communion avec le Seigneur, nous avons tout mis en œuvre pour justement arriver à cette communion, à nous placer devant Dieu, que c'est dans ces moments, quand nous prions pour nos frères ou pour nous-mêmes, que vraiment les choses prennent forme et que le reste n'est que un aboutissement de ces moments de communion. Alors nous pouvons faciliter cet aboutissement par nos efforts, par notre amour, mais c'est d'abord dans la communion, dans cette prière. Tout se gagne dans la prière, il faut en être persuadé. De même, c'est important, quand nous prions pour nos frères, là, si nous concentrons plus sur cet aspect qu'est l'intercession, eh bien, soyons convaincus que c'est d'abord dans la prière pour eux que tout se gagne, et que le reste n'est qu'à faire d'accompagnement de cette prière qui a pris naissance dans la communion. Donc, soyons patients, ayons beaucoup d'espoir, aimons nos frères, quelle que soit leur réaction, sachant que la victoire a déjà été gagnée dans la communion, dans ces moments de prière. Il faut vraiment avoir cette tournure d'esprit, cela est très important. Vous voyez, David communie et après seulement, il est rendu apte pour bénir le peuple de Dieu. Donc dans ces moments de prière, que nous sommes en communion, alors nous pouvons bénir nos frères, nous pouvons nous bénir nous-mêmes, c'est-à-dire prier pour que nous soyons plus proches du Seigneur, pour que nos problèmes qui prennent racine dans le fait que nous sommes loin du Seigneur, que certains aspects de notre vie ne sont pas soumis au Seigneur, et bien dans ces moments, nous pouvons bénir vraiment le peuple, c'est-à-dire nos frères et nous-mêmes, toute notre vie, tout notre être, pour qu'ils soient ressourcés au bénéfice de la communion que nous avons eue dans la prière. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voulez bien, maintenant je vous suggère de prier. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Eh bien, Seigneur, nous prenons l'engagement aujourd'hui sérieusement de nous consacrer des temps à toi, de mettre tout en œuvre au niveau du temps que nous voulons dégager, au niveau de notre désir de nous mettre au calme devant toi, d'utiliser tous les instruments que l'Église nous donne, d'utiliser ta parole. Nous voulons vraiment prendre au sérieux la prière parce que nous sommes convaincus, Seigneur, oui, que c'est là que se gagnent les victoires pour nos frères et nous-mêmes. Nous prenons vraiment comme engagement de prendre la prière au sérieux et de faire comme David. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.